Chapitre 50, Mignon et Wilhelm Meister. La petite Rose de Noël, revenue entièrement à elle, fixa sur Ludovic ses deux grands yeux clairs, tristes et inquiets. Elle voulait parler, soit pour remercier le jeune homme, soit pour lui raconter les causes de son évanouissement. Mais Ludovic lui mit la main sur la bouche sans même prononcer un mot, de crainte sans doute de l'attirer de l'espèce d'assoupissement qui, d'ordinaire, venait à la suite de ses crises. Puis, quand elle lui refermait les yeux, se penchant vers elle, comme pour parler à sa pensée, « Dors un peu, ma petite Rose, murmura-t-il d'une voix douce, je sais que quand tu as ces sortes d'attaques, un quart d'heure de repos t'est nécessaire. Dors, nous causerons lorsque tu te réveilleras. » « Oui, répondit simplement l'enfant, du fond de son sommeil commencé. » Ludovic alors prit une chaise, la posa sans bruit auprès du lit de Rose de Noël, s'assit, et la tête accoudée au bois de la couchette, il songea. « À quoi songea-t-il ? Devons-nous en effet trahir les douces et chastes pensées qui traversaient le cerveau du jeune homme pendant le chaste et doux sommeil de l'enfant ? Et disons avant tout qu'elle était adorable à voir. Jean-Robert eût donné sa plus belle ode, Pétrus eût donné sa plus belle esquisse pour la regarder une minute. Jean-Robert afin de la chanter, Pétrus afin de la peindre. C'était la beauté grave, la grâce virginale et maladive, le teint mat et légèrement bistré de la Mignon de Goethe ou de Schaeffer. C'était la représentation d'un moment rapide où l'enfant devient jeune fille, où l'âme va prendre un corps, où le corps va prendre une âme. C'était le moment, enfin, où, dans la pensée du poète, le premier rayon d'amour lancé par les yeux du comédien est entré dans le cœur de la bohémienne. Et Ludovic, de son côté, offrait bien, il faut le dire, quelques ressemblances avec le héros du poète de Francfort. Un peu las de la vie avant d'y être entré, Ludovic avait le défaut commun aux jeunes gens de l'époque que nous essayons de peindre et sur laquelle les créations désespérées et railleuses de Byron avaient jeté leur poétique désenchantement. Chacun se croyait destiné à être un héros de ballade ou de drame, Don Juan ou Manfred, Steno ou Lara. Ajoutez à cela que Ludovic, médecin et par conséquent matérialiste, avait appliqué à la vie les doctrines de la science. Habitué à tailler dans la chair humaine, il avait jusque-là, ainsi qu'Hamlet philosophant sur la tête d'Iorique, considéré la beauté comme un masque recouvrant un cadavre, et en toute occasion, impitoyablement raillé ceux de ses condisciples qui vantaient la beauté idéale des femmes et l'amour platonique des hommes. Malgré les théories contraires de ses deux meilleurs amis, Pétrus et Jean-Robert, il n'avait jamais voulu voir dans l'amour autre chose qu'un acte purement physique, un vœu de la nature, enfin le contact de deux épidermes produisant un effet analogue à l'étincelle produite par une batterie électrique, rien de plus. Jean-Robert avait vainement lutté contre ce matérialisme, en appelant à son secours tous les dilemmes de l'amour le plus raffiné. Pétrus avait eu beau montrer aux sceptiques les manifestations de l'amour dans la nature tout entière, Ludovic avait nié. En amour comme en religion, il était athée. De façon que, depuis sa sortie du collège, tout le temps qu'il avait pu distraire du travail, et ce temps était court, il l'avait consacré aux princesses de rencontre que le hasard lui faisait tomber sous la main. C'est ainsi que nous l'avons vu, tenant au bras la princesse de Vanvres, la belle Chantelila. Une promenade dans les bois, un matin avec l'une, une promenade en bateau, un soir avec l'autre, un souper au hall avec celle-ci, un bal masqué avec celle-là, tels étaient les divertissements, un peu superficiels, que Ludovic avait, jusqu'à ce moment, demandé aux femmes. Mais quant à les traiter autrement que des machines à plaisir, que des automates de distraction, il n'y avait jamais songé. Il éprouvait un superbe dédain pour l'intelligence féminine. Il disait qu'en général, les femmes étaient belles et bêtes, comme les roses auxquelles, d'habitude, les poètes avaient l'impertinence de les comparer. En conséquence, jamais l'idée ne lui serait venue de causer sérieusement avec l'une d'elles, se fût-elle appelée Madame de Staël ou Madame Roland. Celles qui forçaient l'admiration étaient, selon lui, en nature des espèces de monstres, des turgescences du genre, des déviations de la race. il appuyait cette théorie sur la vie des femmes de l'Antiquité, reléguées à Rome et en Grèce, dans le gynécée ou dans le lupanar. Bonnes comme Laïs à faire des courtisanes ou comme Cornélie à faire des matrones, emprisonnées enfin chez les Turcs dans le harem et là, attendant humblement un signe du maître pour oser aimer. On avait beau lui représenter que la variété de nos connaissances, notre éducation de 25 ans, développant en nous les facultés déposées en germe dans notre cerveau et dans notre cœur, nous donnait seule une apparente supériorité d'intelligence sur la femme, mais qu'il viendrait un temps, et certaines exceptions prouvaient que ce raisonnement n'était point une utopie, mais il viendrait un temps où l'éducation étant égale entre les deux sexes, égale serait l'intelligence. Il n'en voulait rien croire, et maintenait à l'endroit des femmes son système de vie végétale ou tout au plus animale. C'était donc un enfant blasé, comme nous l'avons dit, une âme vierge dans un corps défloré. Il ressemblait à ces plantes tropicales qui, nées dans nos serres, s'étiolent et dépérissent. Mais au lieu de l'atmosphère artificielle du poète, vienne la féconde chaleur d'un soleil chaud, et elle sera vive et resplendisse. Au reste, Ludovic n'avait eu aucune conscience de cet étiolement moral dans lequel il végétait. Ce n'était qu'au moment où l'amour, ce soleil fécondateur de l'homme et de la femme, allait l'inonder de ses plus chauds rayons, qu'il devait se sentir renaître et que ses amis devaient le voir fleurir et fructifier. Ce fut pendant ce chaste sommeil de rose de Noël, du visage duquel son œil ne pouvait se détacher, que lui montèrent au cerveau, comme des brises odorantes, ces bouffées de jeunesse et d'amour qui rafraîchissent d'ordinaire le front des jeunes gens de 20 ans. Chez Ludovic, elles étaient de 7 ou 8 ans en retard. Et en même temps que ces haleines charmantes passaient dans ses cheveux, il sentait affluer vers son cœur, comme les nappes d'eau d'une écluse, des pensées étranges, d'une rêverie et d'une douceur inconnue. Quel nom donner à ce frisson qui parcourut tout son corps en ce moment? Comment appeler cette émanation inconnue dont son front venait d'être baigné? Que dire de cette émotion dont son âme venait d'être saisie tout à coup, et cela si violemment, si inopinément? Était-ce de l'amour? Non, c'était impossible. Pouvait-il y croire, lui qui avait passé sa jeunesse à le combattre, à le honnir, à le nier? Et puis, pouvait-on éprouver de l'amour pour cet enfant, pour cette petite fille sans mère, pour cette bohémienne? Non, c'était de l'intérêt. Oh oui, Ludovic s'avouait à lui-même qu'il s'intéressait bien vivement à Rose de Noël. D'abord, c'était une espèce de pari qu'il avait fait avec la maladie, une poule qu'il jouait avec la mort. Au premier coup d'œil qu'il avait jeté sur Rose de Noël, il avait dit « Ah, bon, voilà, une enfant qui ne vivra pas ». Puis, il l'avait revue dans l'atelier de Pétrus, revue chez elle, dans ses indispositions fébriles, revue assise sur le revers d'un fossé, demandant à un rayon de soleil de la réchauffer comme une fleur, et il avait dit « Quel dommage que la pauvre enfant ne puisse pas vivre ». Puis, il l'avait suivie dans le développement rapide de ses facultés intellectuelles, disant des vers avec Jean Robert, apprenant le piano avec Justin, dessinant avec Pétrus, et lui faisant à lui, Ludovic, tout à la fois de son timbre de voix argentin et avec ses grands yeux étincelants de fièvre, des questions si profondes ou si enfantines qu'il ne savait parfois comment y répondre. Et il avait dit « Il ne faut pas que cet enfant meure ». À partir de ce moment, et il y avait à peu près 6 semaines que cette exclamation lui était échappée, Ludovic, avec la passion qu'il mettait à toute question médicale, s'était attaché à rendre la santé à la pauvre enfant. Il avait compté les pulsations du pouls, il avait ausculté la poitrine, il avait étudié la flamme des yeux, et il était demeuré convaincu que la flamme des yeux et la précipitation du pouls tenaient à une surexcitation nerveuse, mais qu'aucun des organes nécessaires à la vie n'était sérieusement attaqué. Dès lors, il avait prescrit un traitement purement hygiénique au physique, purement philosophique au moral. Il avait mesuré le temps pour la nourriture spirituelle comme pour la nourriture matérielle. Tout en conservant un caractère pittoresque au costume de l'enfant, il lui avait enlevé ce qu'il avait de trop excentrique. Enfin, au bout de 6 semaines de ce traitement, dont chaque jour Ludovic surveillait lui-même l'application et qui avait produit l'amélioration espérée, Rose de Noël était devenue l'enfant que nous avons essayé de ramener jeune fille sous les yeux du lecteur, juste au moment où les questions de M. Jacqual venaient de la jeter dans une de ces crises où elle tombait chaque fois qu'on la rapportait, malgré elle, au terrible souvenir de sa jeunesse. Nous avons vu comment Ludovic, qui avait pris l'habitude de visiter tous les jours la jeune fille, sous le spécieux prétexte de s'assurer si on lui faisait suivre le traitement qu'il avait ordonné, était arrivé au milieu de son évanouissement. Nous savons que, laissé seul près d'elle par M. Jacqual, le jeune médecin avait recommandé le silence à la malade, et que, assis au pied de son lit, il veillait sur son sommeil, la couvait du regard, en se demandant à lui-même ce qui se passait dans son propre cœur. Était-ce simplement du désir qu'il ressentait? Oh, non, ange de la vertu, vous le savez, vous, non, ce n'était pas du désir, car jamais regard plus chaste ne tomba sur un corps plus immaculé. Et qu'était-ce donc? Le jeune homme mit une main sur son front pour contraindre son cerveau à penser. Il mit une main sur son cœur pour empêcher son cœur de battre, mais son cerveau et son cœur chantaient à l'unisson le pur et sublime cantique du premier amour, et force lui fut de les écouter. « Oh, c'est de l'amour, » dit-il en laissant tomber sa tête dans ses deux mains. Oui, c'était de l'amour, et du plus jeune, du plus frais, du plus innocent, du plus virginal amour qui puisse entrer dans un cœur en retard. C'était l'ardente sympathie, la tendresse spontanée d'une âme tardive pour une âme à peine éclose. La fée d'Hélice venait de passer au-dessus de leur tête et elle avait effeuillé ses fleurs les plus blanches sur les fronts de ses deux enfants. Quelle femme saura jamais, et avec quelles paroles pourrait-on le lui dire, les adorations muettes, mystérieuses, ineffables, qui remplissent le cœur de l'homme aux premières révélations de l'amour? Il en fut ainsi pour Ludovic. Son cœur lui apparut à lui-même comme un autel, son amour comme un culte. Tout son passé de sceptique disparut, comme au théâtre disparaît sous la baguette d'une fée et à l'ordre du machiniste, une décoration représentant un désert. Il se tourna vers l'avenir, et à travers des nuages blancs et roses, il vit un nouvel horizon. Cet horizon fut pour lui ce qu'est pour le matelot qui vient de traverser les tropiques et de doubler les caps, l'apparition de ces ravissantes îles de l'océan Pacifique ou de la mer des Indes, avec leurs grands arbres, leurs fleurs gigantesques, leur profonde fraîcheur, leurs âcres parfums, Tahiti ou Ceylan. Il releva le front, secoua la tête et s'appuya de nouveau au bois du lit comme il l'avait fait au moment où Rose de Noël venait de s'endormir et il la contempla avec une sorte de tendresse paternelle. « Ah, dors, enfant, murmura-t-il, et sois béni, toi qui m'as révélé la vie. Ainsi, c'était l'amour que tu portais sous ton aile, chère colombe, le jour où je t'ai rencontrée. » Ainsi j'ai passé tant de fois près de toi, tant de fois je t'ai vu, tant de fois je t'ai regardé, tant de fois j'ai serré ta main dans la mienne, et tout est resté muet, ou m'a parlé une langue inconnue. C'est pendant ton sommeil que tu m'as révélé ton amour. Dors, chère fille, à la mystérieuse origine. Les anges veillent sur ton chevet, et je me cacherai derrière les plis de leur robe pour te voir dormir. Sois tranquille dans le beau pays des songes où tu voyages. Je ne regarderai qu'à travers le voile blanc de ton innocence et ma voix ne troublera jamais le sommeil doré de ton cœur. » Ludovic en était là de ce concert intime que nous avons tous entendu, plus ou moins harmonieux en nous et autour de nous, lorsque Rose de Noël ouvrit les yeux et le regarda. La rougeur monta au front de Ludovic comme s'il venait d'être surpris faisant une mauvaise action. Il sentit la nécessité d'adresser la parole à la jeune fille et cependant sa langue hésita. « Avez-vous bien dormi, Rose ? » demanda-t-il. « Vous ? » répéta l'enfant. « Vous me dites vous, monsieur Ludovic ? » Ludovic baissa les yeux. « Pourquoi me dire « vous » ?» continua l'enfant, habitué dans son intimité à ce que tout le monde la tutoya. Puis elle ajouta, comme s'interrogeant elle-même, Est-ce que j'ai été méchante pendant mon sommeil ? Vous, cher enfant, s'écria Ludovic, dont les yeux se remplirent de larmes. Vous encore ? Répéta Rose de Noël. Mais pourquoi donc ne me tutoyez-vous plus, monsieur Ludovic ? Ludovic la regarda sans répondre. Il me semble que l'on est fâché contre moi lorsqu'on ne me tutoie pas, continua Rose de Noël. M'en voulez-vous ? Non, je vous jure, s'écria Ludovic. Vous, toujours ? Ah, bien certainement, je vous ai fait quelque chagrin que vous ne voulez pas dire. Oh, non, non, rien, chère petite Rose. À la bonne heure, voilà qui est mieux déjà. Continuez. Ludovic essaya de donner un peu de gravité à son visage. Écoutez, cher enfant, dit-il. Rose de Noël fit une petite moue charmante en entendant le mot « écouter » qui lui présageait je ne sais quelle vague contrariété dont elle eût été bien embarrassée de dire la cause. Ludovic reprit « Vous n'êtes plus une enfant, Rose. « Moi ?» interrompit la petite fille avec étonnement. « Ou vous ne le serez plus dans quelques mois, » continua Ludovic. « Dans quelques mois, vous serez une grande personne à laquelle tout le monde devra le respect. » « Eh bien, Rose, il n'est pas respectueux à un jeune homme de mon âge de parler à une jeune fille du vôtre aussi familièrement que je vous parle d'habitude. » L'enfant regarda Ludovic d'une façon si naïve et si expressive à la fois que Ludovic fut contraint de baisser les yeux. Ce regard signifiait clairement « Je crois que vous avez en effet raison de ne plus me tutoyer, mais est-ce la véritable raison que vous venez de me donner ? J'en doute. » Ludovic comprit parfaitement le regard de Rose Noël. Il le comprit si bien que, pour la seconde fois, il baissa les yeux, fort embarrassé sur la manière dont il s'en tirerait si Rose de Noël demandait une explication plus positive à propos de ce changement dans la forme de leur relation. Mais elle, de son côté, le regardant tandis qu'il baissait les yeux, sentit quelque chose d'inconnu dans son cœur. C'était une oppression, mais une oppression pleine de mollesse et de bonheur. Alors il arriva à une chose singulière, c'est que, lui adressant tout bas les paroles qu'elle eût voulu lui adresser tout haut, Rose de Noël s'aperçut que, pendant que Ludovic, qui l'avait toujours tutoyé, ne la tutoyait plus, elle, qui lui avait toujours dit « vous » avec la voix, lui disait « tu » avec le cœur, et ce fut à Rose de Noël de se taire, de trembler et de rougir à son tour. Elle enfonça sa tête dans son oreiller et tira sur ses yeux une de ces gazes dont elle avait coutume de s'envelopper dans ses pittoresques toilettes. Ludovic la regarda faire avec inquiétude. « Ah, je l'ai chagrinée, se dit-il, et la voilà qui pleure. » Alors se levant et se reprochant à lui-même cette trop grande délicatesse, incomprise de l'innocent enfant, il s'approcha du lit, se pencha sur l'oreiller, et de sa voix la plus douce, « Rose, dit-il, ma chère Rose. » Cet appel qui retentit jusqu'au fond du cœur de l'enfant, elle se retourna si vivement que son souffle embrasé se trouva confondu au souffle de Ludovic. Celui-ci voulut se relever, mais sans que Rose de Noël se rendît compte de ce mouvement tout instinctif, ses deux bras s'étaient enlacés au cou de Ludovic, et en effleurant de ses lèvres les lèvres ardentes du jeune homme, elle murmura, comme une réponse à ces quatre mots, « Rose, ma chère Rose, Ludovic, mon cher Ludovic. » Puis tous deux jetèrent un cri, Rose de Noël repoussant le jeune homme se cambrant violemment en arrière. En ce moment, la porte s'ouvrit. C'était Babolin qui rentrait en criant « Dis donc, Rose de Noël, Babylas s'était sauvé, mais la brocante a remis la main dessus et il va recevoir une fameuse danse. » En effet, les cris lamentables de Babylas montant jusqu'à l'entresol de Rose de Noël vinrent confirmer le fameux proverbe « Qui aime bien, châtie bien ».